Dialogue entre Congolais présenté par Alain Rung.
Bonsoir. Plus d'un million de personnes vivent avec le VIH-Sida en RDC et moins de 15% seulement ont accès au traitement. Affirmation de l'ONG International Médecins Sans Frontières, MSF, qui déplore le manque d'investissement du gouvernement congolais et le désengagement des bailleurs de fonds. Comment analyser cette situation et quelles solutions y apporter? Pour en parler, nous recevons Dr Anya de Waheller, coordonnatrice médicale MSF Belgique Congo. Bonsoir docteur, j'espère avoir bien prononcé votre nom.
Oui, ça va. Bonsoir voilà. Aussi.
Merci. Docteur Jean-Baptiste Sondji, ministre honoraire de la santé publique et spécialiste en santé publique. Docteur Sondji, bonsoir.
Bonsoir.
Eric Ngoy, chargé de planification et plaidoyer à l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Comme d'habitude, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Kairi Matembera de Kalemie au Katanga. Je me demande si la prise en charge des personnes vivant avec le VIH est un droit ou une faveur qui justifierait ce désengagement. Patrick Kayimbo de Kinshasa, sur quelles statistiques MSF s'est-il basé pour faire cette affirmation quand on connaît toutes les difficultés que l'on rencontre en RDC en cette matière? Ces chiffres peuvent être vrais, mais ne sont-ils pas faibles par rapport à la réalité et à la grandeur du pays? Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plus d'un million de personnes vivent avec le VIH-Sida en RDC et moins de 15% seulement de patients sont effectivement sous traitement. C'est une affirmation de Médecins Sans Frontières. Au cours d'une conférence de presse ce mercredi dans la capitale, MSF a exprimé sa préoccupation quant à la situation des personnes vivant avec le VIH-Sida en RDC. L'ONG déplore surtout le manque d'investissement du gouvernement congolais ainsi que le désengagement des bailleurs des fonds. Michel Kifindangoy pour le reportage.
Les conditions d'accès aux soins des personnes vivant avec le VIH-Sida sont catastrophiques. Selon Médecins Sans Frontières, la RDC est l'un des pays dont le taux de couverture en antirétroviraux est le plus bas au monde. Une situation que la coordonnatrice médicale de MSF Belgique considère d'urgence ignorée. Docteur Anya de Waguilère.
Aujourd'hui, on estime qu'en RDC, 1 250 000 personnes vivent avec le VIH. Mais seulement 44 000 ont aujourd'hui accès à ce traitement ARV.
En dépit de ces indicateurs catastrophiques, s'exclame le conseiller en analyse et plaidoyer à MSF Belgique, la RDC ne bénéficie pas du degré de priorité auprès des bailleurs des fonds. Or, le désengagement des bailleurs met directement en danger la vie des milliers de Congolais. Thierry Détière tire la sonnette d'alarme.
Comme il y a eu annulation du round 11 du Fonds mondial, on sait qu'il n'y aura plus d'augmentation des traitements ARV par le Fonds mondial avant 2014. Et la situation d'une proportion de 15% du nombre de personnes qui ont accès, on ne va faire que diminuer si on ne peut pas augmenter l'offre de traitement dans le pays.
MSF exhorte donc les autorités congolaises à respecter l'engagement pris en vue d'assurer gratuitement le service de prévention et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida.
Merci Michel Kifindangoy, docteur Anya de Waheller, vous êtes coordonnatrice médicale MSF Belgique au Congo. Plus d'un million de personnes vivent avec le VIH-Sida en RDC. Peut-on déjà parler de catastrophe?
Je pense avec un chiffre réellement d'un nombre de plus de 1 million de personnes vivant avec le VIH et entre eux, on sait que 350 000 ont besoin du traitement ARV aujourd'hui ou qui devraient être déjà sous ARV et entre eux, seulement 15% sont sous ARV. Donc je pense, oui, on peut réellement dire que c'est une crise, c'est une urgence ignorée, surtout quand on compare avec les pays de l'Afrique subsaharienne où en moyenne, en fait, 49% des personnes ayant besoin de traitement ARV ont accès. Donc 15% vis-à-vis des 49%, je pense que ça démontre qu'il y a réellement une crise ignorée en RDC.
La RDC a quand même tout un programme de lutte programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida, mais pourquoi vous parlez d'une crise ignorée?
Une crise ignorée dans le sens que je pense dès le départ, peut-être aussi parce que la prévalence en soi en RDC n'est pas de l'auteur que dans certains autres pays. Donc la RDC n'a pas reçu la même réponse d'urgence que d'autres pays en Afrique de la part du gouvernement, mais certainement non plus des bailleurs internationaux. La RDC n'a pas eu la même réponse qu'on a vue dans les pays comme le Malawi, le Mozambique, le Zambie, où les bailleurs internationaux se sont investis avec des moyens énormes. Ici, on a eu, oui, le Fonds mondial et quelques autres bailleurs, mais à une échelle qui est beaucoup moins large que dans les autres pays.
Alors, docteur, comment on expliquerait ce désintéressement des bailleurs face à la RDC?
Maintenant, donc, je pense, il y a donc la situation jusqu'à maintenant où il y a eu, je pense en général, que la RDC n'a pas été considérée comme un pays prioritaire par certains bailleurs. Et ce qu'on voit depuis 2011, qu'il y a même un retrait de bailleurs. Donc il y a le programme spécifique de Banque mondiale, donc le MAP, qui s'est retiré au cours du 2011, qui laisse un certain nombre de patients qui vont ou devoir être intégrés sous le programme actuel Fonds mondial, mais qui occupent comme ça en fait un certain nombre de lots de traitement qui ne peuvent plus être utilisés pour des nouvelles initiations. Donc ça c'est un des retraits. United qui prévoit des traitements pour les enfants et les patients qui sont sous deuxième ligne avait aussi pris la décision initialement de se désengager fin 2011, mais finalement, après un plaidoyer intense au niveau international, a décidé de rester jusqu'à 2012, mais on ne sait de nouveau pas ce qui va se passer après 2012. Aussi au niveau Fonds mondial, comme mon collègue Thierry l'a expliqué pendant la conférence de presse qu'on a donnée le mercredi, là aussi, on a vu qu'ils se sont vus obligés d'annuler un nouveau round de subventions qui a obligé en fait quelque part la RDC à de nouveau diminuer ses objectifs pour le futur. Parce que justement, la RDC voulait, avec cette nouvelle subvention, essayer d'augmenter l'accès aux ARV pour les patients vivant avec le VIH, mais surtout essayer de travailler sur la prévention de la transmission de la mère à l'enfant.
Docteur, à un certain moment, on a entendu parler des corruptions, de détournement de fonds dans le secteur de la lutte contre le VIH en RDC. Est-ce que cela pourrait être l'une des causes pour lesquelles les bailleurs se désintéresseraient également de la RDC?
Je pense pour nous, ce qui pour nous est important avec l'appel qu'on a fait, c'est le fait qu'on a voulu visualiser la crise actuelle. Et la crise actuelle, c'est que les patients arrivent dans nos structures dans un état beaucoup trop avancé. C'est ça qui, pour nous, c'est le cœur du problème, que les patients ont besoin d'accès aux ARV et pour le moment sont soumis à une souffrance inacceptable par un retard de mise sous ARV. Cela, on voit dans nos propres structures et après on voit qu'il y a un retrait des bailleurs. Oui, il y a eu des problèmes de gestion, de planification, mais au-delà de ça, moi je ne vais pas m'exprimer.
Alors, 1 million de personnes vivant avec le VIH-Sida en RDC, il y a la réaction que j'ai lue dans le sommaire de l'émission, Patrick Kayimbo de Kinshasa, sur quelle statistique MSF s'est-il basé pour faire cette affirmation quand on connaît toutes les difficultés que l'on rencontre en RDC en cette matière? Ces chiffres peuvent être vrais, mais ne sont-ils pas faibles par rapport à la réalité et à la grandeur du pays, docteur?
Donc, on s'est basé sur des chiffres officiels. Donc, les estimations, quand on parle de 1 250 000 personnes vivant avec le VIH, ça sont des estimations qui sont faites par ONU-SIDA, de la même façon pour toutes les autres, comme pour toutes les autres pays. Aussi, les besoins en termes de personnes qui ont besoin du traitement ARV, ça s'est fait aussi de la même façon pour tous les pays. Donc, c'est des estimations officielles, des chiffres officiels qu'on a utilisés dans notre communiqué de presse et dans nos communications. Et je pense, si on voit ces chiffres pour un pays énorme, oui, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est des chiffres minimes. 1 million, pour moi, ça signifie 1 million d'habitants. Moi, je viens de la Belgique, c'est comme toute la ville de une ville comme Bruxelles compte 1 million d'habitants. Moi, je ne peux pas m'imaginer autant de personnes vivant avec le VIH. C'est énorme. C'est pas minime. On ne peut pas minimiser ces chiffres.
Merci, docteur. Eric Ngoy, bonsoir. Eric Ngoy, vous nous suivez?
Oui, je vous suis 5 sur 5.
Merci beaucoup. Vous êtes chargé de planification et plaidoyer à l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH. Comment vous avez reçu ce plaidoyer de Médecins sans frontières?
Oui, nous félicitons MSF qui est partenaire de l'État congolais de tout le temps. Et pour avoir relancé les débats, parce que là, c'est une question qui a pris du temps et c'est pratiquement, l'environnement ne change pas il y a pratiquement 3 ans. Donc, les chiffres qu'ils ont relevés, c'est bien identifié dans le rapport UNCAS. Donc, au-delà de 1 million de personnes sont touchées par le VIH et que le besoin en traitement souffre. Donc, plus de gens ont besoin de traitement et ne l'ont pas. Et même ceux qui ont les 15% dont MSF soulève et que le rapport UNGAS 2010, publié en 2010, donne encore les chiffres de 12,4%. Et les rapports 2010-2011 sera publié d'ici le premier trimestre de l'année 2012. Donc, au fait, ces 15% souffrent. Il n'y a pas une réalité correcte de prise en charge. Donc, il y a encore des difficultés, même sur ceux qui sont déjà sous traitement. Et nous, en tant qu'organisation qui encadre les personnes vivant avec le VIH, nous vivons ces faits tous les jours. Donc, nous disons que le débat vient d'être relancé encore au début de l'année et pour que nous puissions chercher des voies et moyens ensemble avec l'État congolais, trouver des solutions sur la question.
Eric Ngoy, essayez de décrivez nous un peu la vie d'un PVV au Congo.
Non, mais la réalité, c'est que nous sommes en face de personnes vivant avec le VIH, une PVV qui est connue, qui est identifiée et qui est donnée dans ces rapports-là. C'est cette personne qui est pauvre, c'est cette personne qui est abandonnée, c'est cette personne qui est discriminée, c'est cette personne dont les charges journalières pèsent sur elle tout le jour. Donc, nous sommes en face de ces personnes-là. Donc, il y a plusieurs catégories, mais ce que nous connaissons, ce sont ces personnes-là. Ce sont la majorité de ces 15% ou de ces 1 million de personnes touchées par le VIH. Donc, nous pouvons dire que plus de 60% sont des femmes. Et généralement, ces femmes sont des veuves.
Alors, avant de vous redonner la parole, juste signaler à nos auditeurs que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA, PNMLS en sigle, se sont avérés vains. C'est qu'il y a beaucoup de questions qui vont rester sans réponse. Mais Eric Ngoy, quel type de relation entretenez-vous avec le PNMLS en ce qui concerne votre prise en charge?
Non, nous sommes un partenaire du PNMLS. Le PNMLS, ce n'est pas une structure bien identifiée. Je veux préciser, c'est que tout celui qui fait la lutte contre le sida au pays est PNMLS. Donc, il y a une coordination, une coordination des interventions des acteurs. Tous, nous sommes le PNMLS, parce qu'on dit programme multisectoriel, donc chaque secteur contribue à la lutte contre le VIH-SIDA, nous contribuons du côté des personnes vivant avec le VIH. Donc, tous les secteurs doivent apporter une réponse et une stratégie mondiale qui a été mise en place il y a pratiquement une dizaine d'années où on a pensé que seule la santé ne suffit pas. Il faut ouvrir la lutte contre le sida à tous les secteurs. Donc nous sommes partenaires du PNML, des autres acteurs et nous sommes dans les PNMLS.
Alors, Eric Ngoy, l'émission est également pédagogique. Le traitement que l'on donne au PVV, est-il payant? Est-il gratuit? Comment ça se passe?
Non, nous disposons d'une loi depuis 2008 qui dit que la lutte contre le sida, l'accès aux ARV est gratuit. Donc, nous ne pouvons pas dire officiellement que les ARV ou la prise en charge est payante, mais du moins il existe des irrégularités dans ce secteur. Mais jusqu'à aujourd'hui, une fois une personne est dépistée et qu'il y a besoin de traitement, l'accès est gratuit, mais c'est payé quelque part. Donc je ne peux pas dire que l'accès n'est pas gratuit. Nous sommes un pays qui respecte les engagements, mais du moins, cet accès gratuit n'est pas à un grand nombre de personnes. Donc, aujourd'hui, une fois dépisté positif et qu'on a besoin de traitement, vous allez entendre à gauche, à droite, que la cohorte est clôturée. Nous ne savons pas aligner de nouvelles personnes à la ligne pour être prise en charge. Donc, cette personne, est, pour sa survie, est obligée d'acheter les ARV par des voies que nous connaissons.
Quelles sont ces voies? Soyez un peu plus explicite.
Non, je disais qu'il y a des personnes de sources clandestines de vente des ARV. Donc il y a des personnes qui importent des ARV parce que les besoins se posent dans les pays et qu'ils se disposent à offrir leurs services à toute personne qui se sente dans les besoins. Donc il y a des sources clandestines de distribution et de vente des ARV.
Merci Eric Ngoy. Docteur Jean-Baptiste Sondji, vous êtes ministre honoraire de la Santé publique et spécialiste en santé publique. Comment vous analysez cette situation?
D'abord, il faut féliciter quand même MSF qui ont tiré sur la sonnette d'alarme pour réveiller la conscience des Congolais au moment où les préoccupations sont ailleurs. Des problèmes aussi importants que ce problème-là, je pense qu'aujourd'hui, quand vous circulez dans la rue ici ou ailleurs, je ne pense pas que beaucoup de gens pensent à des problèmes de ce type, genre sida, parce que les gens pensent à autre chose. Alors que le sida est une maladie qui tue, et qui tue très fort à petit feu, et on néglige beaucoup. Alors, bien sûr, ils donnent les statistiques. D'abord, je ne suis pas étonné, ayant été ministre de la Santé moi-même, je connais très bien la situation et l'état d'engagement de notre pays par rapport à des problèmes aussi importants que celui du sida. Et je dois vous avouer que l'effort n'est pas très grand. L'effort n'est pas très grand. Et cela se traduit d'ailleurs par le fait qu'aujourd'hui, ces statistiques auraient dû provenir du ministère de la Santé, mais ils proviennent du Médecins sans frontières. Ça veut dire que le ministère de la Santé lui-même, je ne sais pas s'il en fait vraiment grand cas. Et un peuple qui laisse le devenir de la santé de sa population au niveau de la communauté internationale est un peuple qui est irresponsable, est inconscient. Et je pense que, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas, d'autant que, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une personne que je connais, que je suis plus ou moins, qui une personne vivant donc avec VIH, qui suit un traitement, et puis je l'ai vu avec un état un peu dégradé, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il n'allait pas, elle dit non, depuis un certain temps, il y a pénurie des antirétroviraux dans la ville de Kinshasa. Ce qui m'a paru un peu étonnant. Parce que ces médicaments, normalement, il faut les prendre de manière continue, ça ne peut pas être interrompu. Mais si on a même des ruptures de stock, je pense que ça dénote une inconscience. Mais cette inconscience, à mon avis, le problème de sida, c'est un problème d'abord de la République. C'est d'abord les structures internationales comme Médecins sans frontières, l'OMS ou les autres ne peuvent venir qu'en appui. Mais lorsque l'État congolais lui-même ne prend pas en charge sa propre population, eh bien, c'est tout simplement regrettable et c'est triste.
Donc, vous donnez raison pratiquement à MSF qui a intitulé cette campagne d'appel au secours, le sida en RDC, l'urgence ignorée.
Absolument, absolument. Il n'y a pas que le sida d'ailleurs, hein. Il y a bien d'autres problèmes, hein. Donc, la santé, de manière générale, elle est sinistrée. Le domaine de la santé est un domaine très sinistré. Ça, pour la très simple raison que, vous savez, la santé est un investissement à long terme. C'est-à-dire que c'est pas dans l'immédiat que vous avez les répercussions de la santé. Donc c'est les hommes en bonne santé qui produisent. Mais la santé bénéficie de la production des autres. Mais lorsque nous sommes dans un pays qui ne produit pas, où tout se désagrège à tout moment, il est très très difficile de consacrer le peu de ressources à des problèmes tels que la santé, comme l'éducation, parce que les gens alors ne s'amènent que vraiment en dernière minute, au moment où pratiquement on ne sait plus rien faire. Donc, ce que nous disons ici, je ne sais pas quel est l'écho que cela pourrait avoir, dans la mesure où, Médecins Sans Frontières, ils sont conscients, nous-mêmes nous sommes conscients, mais les décisions, ce n'est pas nous qui les prenons, parce que ce problème de la mise à disponibilité des ARV, c'est un programme qui doit être un programme continu et très sérieux, de manière continue, ne peut pas faire l'objet de rupture. Et lorsqu'on voit effectivement que, dans les autres pays, comme ma collègue me l'apprend, que le taux de couverture est de l'ordre de 50%, chez nous, dans la mesure où notre prévalence, effectivement, à part le problème de guerre, là, n'est pas aussi importante que dans les pays de l'Afrique australe, il y a une raison supplémentaire que ce problème, pris en charge rapidement, on peut le contrôler encore mieux que chez les autres, dans la mesure où la prévalence est relativement faible. Mais si on laisse faire les choses, écoutez, à un moment donné, nous allons nous retrouver exactement dans la même situation que les autres pays.
Docteur, la situation sociopolitique de la RDC peut-elle influer sur le désengagement ou l'engagement des partenaires?
Bien entendu. Bien entendu, lorsque vous avez affaire à des dirigeants ou qui font montre d'irresponsabilité. L'irresponsabilité, par exemple, lorsque vous mettez un patient sous antirétroviraux, il ne peut pas y avoir une rupture de stock du fait que ces patients sont mis pendant ce traitement de manière indéfinie, donc doivent être suivis. Mais lorsque vous vous retrouvez qu'à un moment donné, il y a rupture de stock, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui ne marche pas du tout. Et là, c'est tout à fait inconscient. Alors, face à cela, ça démobilise beaucoup tous les partenaires qui sont disposés à nous aider. Et quand vous voyez tout ce qui se passe ici, tous les désordres qu'il y a, ça n'encourage pas beaucoup de partenaires à venir nous venir en aide. Parce qu'ailleurs, lorsque on vient en aide à certains pays, on peut voir l'évolution positive. On dit voilà, nous contribuons pour ce moment, et puis on voit les résultats. Mais ici, ça devient presque un tonneau d'Anaïde. Donc, ça dit qu'un tonneau qu'on remplit, mais sans aucun résultat. Et là, je pense que c'est une interpellation sérieuse des responsables de l'État. La santé publique est l'affaire du gouvernement. Les autres ne peuvent nous venir qu'en appui.
Certains partenaires, docteur, avant de redonner la parole à docteur Agna, certains partenaires ont dénoncé la mauvaise gestion. Décidément, la lutte contre le VIH-SIDA, c'est devenu aussi un fonds de commerce en RDC.
Mais la mauvaise gestion ne concerne pas uniquement le sida. La mauvaise gestion est une des caractéristiques prédominantes de notre pays dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, dès qu'on a un peu de ressources qui entrent dans où, vous savez que la corruption est devenue le mode de gestion presque naturel ici, ça veut dire que dès qu'on a des entrées, même si en termes nominal, par rapport aux besoins, c'est insignifiant, mais chez nous ici, quand vous avez accès à quelques millions de dollars, eh bien les gens perdent leur tête. Et chacun veut soutirer le maximum pour ses intérêts, sans tenir compte des intérêts pour lesquels ces fonds ont été disponibilisés. Et ça démobilise tous ceux qui veulent bien nous aider.
Docteur Agna de Weiler, on a suivi tout à l'heure Eric Ngoy, qui disait qu'il y a des moments où les PVV ont des ruptures de stock. Ça arrive souvent, c'est quand même assez curieux.
Je pense réellement il y a eu des problèmes de rupture de stock ou des problèmes de quand des patients ont dû être transférés d'une structure à une autre quand on a eu un changement d'approche d'une approche verticale, donc des CTA vers l'approche zone de santé. Il y a des patients aussi, et ça je pense c'est probablement actuellement un des problèmes majeurs, c'est que la prise en charge, comme Eric Ngoy a souligné, normalement la prise en charge globale pour les PVV est gratuite en RDC, mais en réalité seulement les ARV sont souvent offerts gratuitement. Mais tous les frais annexes en fait, donc les coûts des consultations, les frais d'hospitalisation, les examens de labo, qui sont un suivi labo est indispensable pour un patient qui est sous ARV, mais donc presque toujours les patients en fait doivent prendre ces coûts, c'est à leur compte. Donc, ils doivent payer tout ça de leur poche. Et pour un malade chronique, en fait, ça devient un goulot d'étranglement.
Insupportable, en fait.
Insupportable. Et donc, ça, je pense, c'est un problème majeur sur lequel, aussi pendant le communiqué de presse, nous, on a voulu tirer l'attention là-dessus, que la gratuité n'est pas garantie actuellement. Oui.
Eric Ngoy a également évoqué un aspect important. Il y aurait une filière clandestine des personnes qui importeraient des ARV de façon clandestine et qui les vendraient un peu au noir. Quel danger ça peut représenter?
Moi, personnellement, j'ai pas des infos là-dessus, mais si ça se fait, je pense ça peut être réellement dangereux parce qu'on n'a pas d'informations sur où est-ce que ces médicaments ont été fabriqués? Est-ce que ces médicaments contiennent réellement la matière propre? Donc là, je dirais à la population, soyez très prudents avec des médicaments qui viennent pas d'une structure de santé reconnue comme site de prescription ARV, parce que on sait que aussi pour les autres médicaments, il y a des médicaments qui sont sur le marché mais qui contiennent en fait pas la matière propre et donc qui peuvent être même dangereux pour le patient. Mais moi, j'ai pas connaissance sur cette importation, j'ai pas des infos là-dessus.
Y aurait-il un problème de vulgarisation, de communication, docteur Anya, dans le secteur de la lutte contre le VIH-Sida en RDC?
Je pense plus d'informations sur l'importance de se faire dépister pour le VIH, par exemple, plus d'informations sur les moyens de prévention de du VIH, mais aussi plus d'informations que oui, il y a un traitement pour le VIH, même si c'est pas une cure, mais il y a un traitement. Oui, je pense que ça c'est important, mais réellement, on peut que donner ces informations si l'offre de ces services est aussi présent, et je pensais là où on est aujourd'hui dans une balance très difficile, mais l'information, oui, devrait être mise à disposition de la population, oui, tout à fait.
Eric Ngoy, c'est PVV qui s'alimente parfois dans la filière clandestine, sont-ils au courant des dangers que ça peut représenter?
Non, mais je crois que Docteur Soudji a bien dit que c'est un problème de santé. Lorsqu'un problème entre dans une famille, on cherche des solutions par toutes les voies. Aujourd'hui, on nous dit que nous ne savons pas vous aligner parce que la cohorte est limitée et que les personnes qui sont déjà alignées, on doit assurer leur prise en charge pendant longtemps. Et maintenant, qu'est-ce que on fait de la personne dépistée aujourd'hui? Donc, je crois qu'il y a un grand problème de communication et un sérieux problème de communication et toujours un problème de communication. Parce que si nous lisons le rapport Ungas où on nous renseigne que seulement 16% des jeunes qui connaissent exactement, qui ont des informations exactes sur les VIH-SIDA, donc je crois que là il y a un problème, parce que si nous lisons encore les rapports, ces rapports nous disent que ce sont ces jeunes-là qui sont les plus touchés. Donc ça veut dire que les jeunes continueront à être touchés, parce que au fait la stratégie ou les interventions menées ne sont jamais évaluées. On a mis en place la stratégie pré-éducation. Mais cette stratégie n'a jamais été évaluée depuis qu'on a mis en place dans les années 90. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à parler de la rééducation. Mais est-ce que cette stratégie a été évaluée et a sur base des recommandations ou sur base des évaluations, on peut développer de nouvelles stratégies? Il n'y a que multiplication des approches et des stratégies, sans pourtant interroger les stratégies mises en place bien avant. Donc je crois qu'il y a un sérieux problème de communication, et même si nous posons aux PVV qui ont accès aux ARV aujourd'hui, et la nature des médicaments ou le nom des médicaments, parce qu'on fait ces exercices-là, donc tu trouves que la PVV n'est pas consciente de quel type de médicament elle peut interrompre à n'importe quel moment, parce que au fait on n'a pas à manger et que ces ARV donnent encore envie de manger ou affament les patients, et ils sont prêts à interrompre le médicament, ils sont prêts à abandonner le port d'usage des préservatifs, ils sont prêts à abandonner et à répandre ces traitements quand ils veulent, et nous constatons qu'il y a quand même de morts suite aux ruptures de médicaments, suite à ceci. Donc ça, c'est un problème de communication.
Docteur Jean-Baptiste Songy, avec vous, nous allons déjà aborder la deuxième partie de cette émission. Que faut-il pour remédier à cette situation? Nous prenons cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu pour vous.
Chantal Chaïda Moulinga Biuma depuis Goma au Nord Kivu. La solution à cette situation, c'est l'autoprise en charge nationale, c'est-à-dire que les ONG des droits de l'homme mettent au point un partenariat avec le gouvernement de la RDC, avec une forte mobilisation en amont, un fonds spécial de solidarité nationale des personnes infectées du VIH-SIDA, qui sera alimenté par tous les citoyens congolais se trouvant sur le territoire et ceux de la diaspora, avec $1 par mois à verser à un compte ouvert dans une banque pour la cause, et ensuite on pourra solliciter l'appui extérieur avec droit, car ayant fait le premier geste.
Réaction, docteur, est-ce une solution durable ou efficace?
C'est un pis-aller, dans ce sens que moi je m'attendrais à ce que la concitoyenne insiste davantage pour que l'État dans son ensemble prenne le problème de santé à bras le corps, qu'on ne considère pas ces problèmes de santé de manière générale et de personnes vivant avec le sida comme quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose pratiquement, ça fait partie de la norme de vie. Et que l'État doit consacrer les ressources. Et on ne doit pas faire des fonds spéciaux. Si on fait des fonds spéciaux, c'est qu'en réalité, l'État a failli à sa tâche. Malheureusement, c'est vrai que pour que l'État prenne conscience de ses responsabilités, probablement il faudra le temps. Alors, maintenant, c'est peut-être les pis-allers, mais vous savez, organiser ces collectes aujourd'hui, même si chacun devait donner $1, ça va poser beaucoup de problèmes de gestion, ça va poser énormément de problèmes. Et là, on retombe dans un cercle vicieux. Donc, moi, je pense qu'il faut un État responsable. Un État responsable, malheureusement, que nous ne sommes pas. Notre pays, nous ne pouvons pas dire que nous sommes gouvernés par des personnes responsables.
C'est assez fort, docteur.
Bah, j'étais ministre, je me parle à moi-même, puisque je suis un des responsables politiques. Quand je dis cela, d'abord, c'est une interpellation. Que si je dis que nous ne faisons pas le travail que le peuple attend de nous, c'est pour que nous nous remettions en cause et voir comment améliorer cet état de choses.
Alors docteur, par rapport à ce qui s'est fait maintenant, Eric Ngoy a fustigé la multiplicité des approches qui ne sont pas évaluées. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens?
Mais oui, c'est parce que vous savez, quelle est la caractéristique d'un état faible? Un état faible, ce n'est pas l'État qui détermine la politique dans le domaine particulier de la santé, dans laquelle les partenaires viennent s'inscrire, mais c'est chaque partenaire, en fonction de ses priorités nationales, qui définit sa politique. Et notre pays aujourd'hui est justement un pays très faible, qui n'a pas la capacité de prendre en charge le leadership de ce problème de santé, ce qui fait que vous allez à USAID, ils ont leur vision de la santé, vous allez à la CTB, ils ont leur vision de la santé, vous allez en Allemagne, ils ont chacun, et ça, ça démontre que l'État manque de leadership, et c'est ce qui fait que chacun vient, il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il faudrait, c'est en fait obliger à ce que l'État ait une politique sanitaire dans le domaine de SIDA comme ailleurs, mais que sur base de cette politique-là, que tous ceux qui viennent y contribuent et non pas laisser à chacun faire ce qu'il a envie de faire.
Merci docteur Jean-Baptiste Songy. Je rappelle que vous êtes ministre honoraire de la santé publique et spécialiste en santé publique. Docteur Anya Adewailer, vous êtes coordonnatrice médicale MSF Belgique. Vous avez lancé une campagne d'appel au secours intitulée « Le sida en RDC, l'urgence ignorée ». Docteur, pour remédier à cette situation que nous déplorons ici, qu'est-ce qu'MSF prévoit au-delà du simple fait de lancer cette campagne?
Au-delà de cette campagne, bien sûr, nous, notre première notre rôle primaire ou notre core business, comme on dit en anglais, c'est être à côté du malade. Et donc, pour nous ici en RDC, donc actuellement, MSF contribue au traitement pour 6 000 patients vivant avec le VIH. La plupart de ces patients se trouvent ici à Kinshasa, au CHK Kabinda, mais on appuie aussi des centres partenaires, centres publics et aussi des centres armées de salut et B2M, donc dans la mise à échelle sous ARV. On a aussi dans nos autres projets, dans les autres provinces, donc Maniema, Otuélé, Nord-Kivu, et dans ces projets aussi, donc chaque projet où on travaille dans les soins de santé primaires ou soins de santé secondaires, on intègre les soins VIH. C'est comme le docteur Songy dit, c'est une maladie qui doit être traitée comme les autres, et donc on prend en charge tous les PVV qui se présentent dans nos projets. Donc ça, c'est notre activité principale pour les PVV. Au-delà, bien sûr, ça c'est le lancement, c'est le début d'une campagne, mais l'idée est de continuer tout au long de l'année avec des activités spécifiques sur le VIH-SIDA, des activités avec des organisations des personnes vivant avec le VIH, mais surtout aussi un travail intensifié avec le programme national de lutte contre le sida, avec les autres acteurs qui sont actifs dans le VIH, un plaidoyer national qui va continuer, un plaidoyer aussi au niveau international par notre bureau à Bruxelles. Donc je pense qu'il y a plusieurs activités qu'on va continuer tout au long de cette année.
Alors en parlant de ce plaidoyer sur le plan international, docteur, quel message MSF va amener auprès des bailleurs qui deviennent déjà si désintéressés pour qu'ils revoient leur engagement par rapport à la RDC?
Je pense qu'on va en premier lieu essayer de faire, c'est de revisualiser la situation actuelle. Donc, comme on vient de faire ici avec le communiqué de presse au niveau national, donc visualiser la couverture actuelle au niveau de traitement, mais aussi au niveau de prévention de transmission mère-enfant, donc les atteintes actuelles et l'insuffisance de ces atteintes, et on va adresser les bailleurs principaux concernés, le Fonds mondial, le PEPFAR, la Banque mondiale et les autres bailleurs.
Eric Ngoy, vous êtes chargé de planification et plaidoyer à l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour décanter cette situation?
Oui, je veux signaler que la situation est grave et que l'État doit s'engager à fond. Donc je reviens de ICASA, donc la conférence internationale africaine sur le VIH et les IST en Afrique, en décembre 2011. Donc la situation est telle que les pays doivent se responsabiliser. Donc, les partenaires viendront en appui, mais que les pays doivent se responsabiliser. Il y a lieu que le gouvernement augmente suffisamment des ressources pour la lutte contre le sida. Ça veut dire, il y a un engagement pris par l'État en 2001, et c'est pour tous les pays, Nations Unies, et que le budget de la santé soit augmenté jusqu'à atteindre 15% du budget national. Et il faut une bonne gestion de ces ressources et une bonne répartition de ces ressources. Développer des sources innovantes de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, on parle de la TVA. Est-ce qu'on pouvait pas, sur les 16%, prendre 10% pour alimenter la lutte contre le VIH-SIDA? Et que ça soit une convention et que l'État se décidera sur les 16%. 2%, ne fiche que 2%, soit alloué à la lutte contre le VIH-SIDA. Et autre chose, c'est la production locale des ARV. Le pays a suffisamment de ressources pour produire localement les ARV. Mais jusque-là, la Pharmakina a eu des difficultés et avait commencé et a fermé. Donc, nous pensons que s'il y a des choses à faire, il y a certainement plusieurs choses à faire. Il faut des conférences nationales, il faut des conférences provinciales pour que nous puissions identifier les bonnes pratiques, pour que nous puissions identifier les sujets de recherche, pour que l'État s'approprie suffisamment. Depuis qu'on a eu la conférence en 2005, jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu une conférence nationale. Donc c'est un problème. Et qu'il y a des ressources, mais que le management dans la gestion de la lutte soit accéléré et que nous puissions développer des approches en utilisant les personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, merci. Dans l'ICOP Plus, nous faisons de la PVV un agent communautaire de lutte contre le VIH. Donc, nous pensons que notre contribution, avec la contribution des autres, dans une logique de renverser la tendance, merci. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 3-0, merci. Zéro discrimination, zéro décès, zéro nouvelle infection.
Éric Ndoye, excusez-moi, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Le temps de donner la parole au docteur Sondi. Je reviens à vous, docteur. Éric Ngoy parle de la production locale des ARV qui poserait problème. Qu'est-ce que vous en pensez en guise de conclusion?
Oui, notre pays, vous savez, dans le temps, produisait pas mal de médicaments. Et normalement, un pays comme le nôtre ici a une masse critique suffisante pour produire des ARV, pour assurer une distribution plus ou moins permanente. Mais évidemment, quand une telle production exige quand même une organisation, une grande organisation, une grande planification, donc des problèmes administratifs et les problèmes, en fait, qui sont liés à la nature de l'État. On ne peut pas se lancer dans une telle production parce que si ça produit, par exemple, à la Pharmakina, il faut avoir tout un réseau de distribution à travers tout le pays. Mais il faut, en plus de ça, qu'on achète ces produits-là. Donc, moi, je pense que, pas seulement d'ailleurs pour les ARV, le Congo a une masse critique qui lui permet de produire un certain nombre de médicaments génériques pour l'utilisation locale et même l'utiliser pour la distribution dans les pays environnants. Mais on revient au même problème d'organisation, le problème de la nature même de l'État, et c'est ça le hic.
Docteur Anya Dewaehler, en guise de conclusion, un mot également sur le projet de production locale des ARV.
Pour production locale d'ARV, je pense ça peut être à long terme une solution, mais je pense qu'il faut être assez prudent parce que réellement la production des ARV n'est pas simple et au niveau international, pour, comme le docteur dit, pour pouvoir être acheté, la production doit être validée par plusieurs instances. Par exemple, ça doit être préqualifié par une instance comme l'OMS et donc c'est des procédures qui prennent beaucoup de temps, une grande préparation, et donc c'est pas une solution immédiate.
Merci docteur Éric Ngoy, juste un mot pour terminer.
Oui, je tiens à vous remercier pour cette émission et féliciter MSF qui a relancé les débats et Nous sommes disponibles et que du coup plus à temps contribuer.
Merci. Merci Eric Ngoy, c'est par vous que nous terminons cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Restez branchés sur Radio Okapi. Au revoir.